Des nouvelles du Brésil. Notícias do Brasil. Les nouvelles du Brésil, ce sont des chroniques de la vie quotidienne ou politique recueillies et enregistrées depuis Olinda, dans l'état du Pernambouc, juste à côté de la capitale Recife. Bonjour à tous et bienvenue dans ces troisièmes nouvelles du Brésil. Ça sera les avant-dernières normalement. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais on continuera évidemment avec des nouvelles du monde depuis les studios de Saint-Hippolyte du Fort. En tout cas pour aujourd'hui, ce jeudi 1er février, on retrouve un format un petit peu plus traditionnel, c'est-à-dire une revue de presse. Mais vous l'aurez compris, centré autour de l'actualité du Brésil et de ce que je peux en voir ici aux alentours de Recife et de Olinda, donc dans le nord-est, dans la région du Pernambouc. Et on commence avec ces hommages rendue suite à la disparition de Julieta Hernandez. Elle était cyclo-voyageuse, c'était une clown ambulante, en vélo donc, tuée dans l'état d'Amazonas, il y a maintenant presque 3 semaines. Un meurtre sordide qui a défrayé la chronique et dont les effets se sont fait sentir jusqu'à ici Olinda, puisque nous avons assisté à une soirée rendue en hommage à cette artiste. Un féminicide donc qui a choqué le Brésil, un de plus. La mort de Julieta Hernandez, artiste vénézuélienne, clown et cyclo-voyageuse qui était donc au Brésil au moment de sa mort, a ému même jusqu'à toute l'Amérique latine entière. Elle a en effet été cruellement assassinée et violée dans l'état d'Amazonas par un couple qui a reconnu le crime. Cette artiste voyageait seule à vélo au Brésil depuis 8 ans. Elle était en route vers le Venezuela quand son corps a été retrouvé brûlé. Plus connue sous son nom de clown, Miss Jujuba, Julieta avait été l'élève du fameux Glauci. Julieta Hernandez avait donc parcouru 9 états du nord-est et du nord du Brésil à vélo pour propager son art dans les zones les plus rurales. Suite à sa mort, le 12 janvier à Rio de Janeiro, au cours d'une soirée d'hommage, on pouvait lire sur une banderole « Pour un monde où vivre nos rêves ne nous met pas en danger ». Un collectif de cycloactivistes s'était rendu sur place aussi pour rendre hommage à Julieta. Suzy en fait partie, c'est elle d'ailleurs qui a lancé l'alerte de la disparition. Elle dit « Je ne supporte pas qu'on dise que Julieta était irresponsable ou ingénue. Ce n'était pas le cas. Elle voyageait depuis 2016. Elle ne cherchait pas le danger. » Et ce qui revient souvent dans les témoignages de ses soutiens solidaires, c'est « J'aimerais que les artistes comme elle aient plus d'aide financière, parce que si elle avait eu le choix, elle aurait pu trouver un meilleur endroit où dormir. » Car oui, ce sont les personnes qui l'ont logée qui ont été arrêtés pour son meurtre, visiblement suite à une sordide histoire de viol, puis de crise de jalousie, d'accès de colère de la femme qui a tué donc la clown. C'est donc la précarité des artistes du pays qui est indirectement pointée du doigt par ce drame, mais aussi et surtout l'effrayante violence envers les femmes. Selon le Forum brésilien de sécurité publique, le nombre de féminicides est en augmentation dans le pays. Pour l'année 2022, 1437 femmes ont été assassinées. Et je vous le disais en préambule, à Olinda, c'était ce vendredi 26 janvier qu'était rendu hommage à la clown cycliste, puisqu'une partie de la soirée de la Convention des arts de la rue du Pernambouc lui était consacrée. Un moment entre rire et larmes, comme tout bel hommage à un clown se devrait d'être. Des films, photos ont été diffusés et plusieurs numéros de jonglage ou d'acrobatie ont été réalisés en son honneur, avant que tous les participants et participantes ne se réunissent enfin dans une ronde de cocu collective où les chants de lutte de femmes ont trouvé un écho puissant ce soir-là. Seu grito silenciou lá no alto em Olinda. Era uma mulher tão linda que a natureza criou. Ela foi morta no meio da madrugada com um tiro de espingarda pela mão do seu amor. Fico orando a Deus peço clemência. Com toda essa violência, o mundo vai se acabar. Moro em Olinda, canto pouco com amor. Luto contra a violência, porque mulher também sou. Et on plonge maintenant dans les méandres de la politique politicienne du Brésil avec un nouveau scandale d'espionnage. Des perquisitions continuent au sein du clan Bolsonaro. La pression sur l'entourage de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro continue de s'accentuer ce lundi 29 janvier avec des perquisitions donc chez l'un de ses fils dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'espionnage illégal d'adversaires politiques pendant son mandat. La police fédérale fait savoir dans son communiqué « De nouvelles perquisitions ont été menées dans la continuité d'une opération ayant eu lieu jeudi dernier, avec pour objectif d'enquêter sur une organisation criminelle au sein de l'ABIN. L'ABIN, c'est l'Agence brésilienne de renseignement. Une des cibles donc de ces perquisitions était Carlos Bolsonaro, conseiller municipal de Rio de Janeiro, et le deuxième des quatre fils de l'ancien président d'extrême droite du Brésil. Les enquêteurs soupçonnent donc le renseignement brésilien l'ABIN d'avoir utilisé un logiciel espion israélien qui s'appelle First Mile pour pouvoir espionner des centaines de responsables politiques et des personnalités publiques pendant la présidence Bolsonaro qui a duré de 2019 à 2022. La police fédérale a fait savoir que cette nouvelle étape de l'opération qui a été lancée jeudi dernier ciblait maintenant le noyau politique pour identifier les principaux destinataires de ces informations et les bénéficiaires de ces infos produites illégalement par l'ABIN à travers des actes clandestins. Il se dit même qu'on aurait trouvé un des ordinateurs dans lequel est ce fameux logiciel espion, des ordinateurs donc qui permettent d'avoir accès à peu près n'importe quoi chez le fils Bolsonaro. En tout cas, l'arrêt judiciaire qui a permis ces perquisitions a été signé par le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, et il évoque une demande d'information à l'ABIN sur des enquêtes qui impliquent le président Bolsonaro et trois de ses fils. Cette demande a été formulée en février 2020 par une assistante de Carlos Bolsonaro à une collaboratrice du chef de l'agence de renseignement de l'époque au cours d'un échange de messages sur WhatsApp qui a été reproduit d'ailleurs dans le document judiciaire. C'est ces fameux échanges de communication sur WhatsApp dans lequel est formulée la demande d'avoir des informations sur le clan Bolsonaro pour savoir donc s'il y a des enquêtes en cours et de pouvoir aussi accéder aux informations concernant tous les autres responsables politiques, principalement dans l'opposition. Et d'ailleurs, l'ancien chef de l'ABIN, donc le renseignement brésilien, qui est aujourd'hui député fédéral au sein du parti libéral de Jair Bolsonaro, avait lui-même été la cible d'une des 21 perquisitions menées jeudi dernier dans le cadre de cette affaire. En tout cas, pour ce lundi, les policiers se sont rendus à 9 adresses au total, dans les états de Rio de Janeiro, de Goiás, de Bahia et dans le district fédéral de Brasilia. Le domicile du fils de Jair Bolsonaro, Carlos, à Rio de Janeiro, ainsi que son cabinet à l'Assemblée municipale ont été perquisitionnés. Et la police s'est également rendue à une résidence où se trouvaient Jair Bolsonaro et ses trois premiers fils, dans la commune de Angra dos Reis, une cité balnéaire située à environ 150 km de Rio. Le troisième fils de l'ex-président, le député Eduardo Bolsonaro, a de son côté condamné les excès commis selon lui durant ses perquisitions. Il dénonce une action judiciaire illégale en plus d'être immorale. Il a par ailleurs également nié des rumeurs selon lesquelles le clan Bolsonaro aurait fui en bateau après avoir été mis au courant de ses perquisitions. Une rumeur qui a d'ailleurs fait le tour du pays et fait rire beaucoup de monde. Mais son avocat assure que dès qu'ils ont su que la police fédérale était dans la résidence, ils sont rentrés à la maison et ils invoquent une partie de pêche très matinale pour expliquer cette sortie en bateau. Le document judiciaire qui a donné le feu vert pour ces premières perquisitions citait le juge Moraes parmi les personnes ayant été espionnées, ainsi que l'ancien président de la Chambre des députés Rodrigo Maia et Camilo Santana, le gouverneur de l'état du Ceará au nord-est, qui est aujourd'hui ministre de l'éducation du président de gauche, Luiz Inácio Lula. Puisqu'on est dans les affaires du président Bolsonaro, dont il se dit qu'il en aurait plus de 70 en ce moment même à son encontre, celle de la semaine dernière, elle, revenait sur les histoires de certificats de vaccination. Jair Bolsonaro aurait bénéficié d'un faux certificat de vaccination contre le Covid-19, c'est ce que révélait donc jeudi 18 janvier une enquête du bureau du contrôleur général du Brésil qui malgré tout recommandait quand même de classer l'affaire. Dans cette enquête, le contrôleur a trouvé des incohérences entre les documents du ministère de la Santé et le carnet de vaccination de Jair Bolsonaro. À l'époque, ces documents étaient classés secrets et donc inatteignables par la justice, mais depuis que Lula est au pouvoir, il met un petit peu le nez justement dans les dossiers de son prédécesseur pour tenter de lever tous les lièvres qui s'y sont glissés. Ainsi, on peut lire dans le carnet de vaccination de Bolsonaro que celui-ci se serait vu administrer une dose de vaccin à Sao Paulo en juillet 2022, mais le seul document qui figure dans le carnet de vaccination de l'ex-président montre que c'est plutôt une fraude du système d'enregistrement des vaccinations qui est à l'origine de ce tampon. L'enquête conclut en tout cas que le certificat de vaccination est un faux. Mais je vous le disais, le contrôleur demande de classer l'affaire, faute d'éléments suffisants pour essayer de trouver les responsables. En effet, de très nombreux fonctionnaires ont la possibilité d'introduire de fausses données dans ce système, système donc de vérification informatique des données de vaccination. L'enquête qui a levé ce lièvre avait notamment pour objectif de déterminer si d'autres fonctionnaires fédéraux avaient falsifié le carnet de vaccination de Jair Bolsonaro. A priori, impossible de mettre la main sur des responsables. En tout cas, il est bon de rappeler que pendant son mandat, donc de 2019 à 2022, Jair Bolsonaro n'a cessé de critiquer les vaccins anti-Covid en assurant qu'il n'avait justement pas l'intention de se faire immuniser contre ce virus qui a fait plus de 700 000 morts au Brésil. Jair Bolsonaro a d'ailleurs depuis reconnu qu'il n'avait pas été vacciné. Alors vacciné ou pas, difficile de trancher avec ce président qui souffle le vrai comme le faux selon ses besoins électoralistes. Condamné à 8 ans d'inéligibilité l'an dernier pour diffusion de fausses informations sur le système de vote électronique, Jair Bolsonaro, âgé de 68 ans, est cerné par les affaires, notamment pour corruption, depuis qu'il a perdu la présidentielle fin 2022 face à Lula. Et vous l'aurez compris, depuis que Lula a remis la main et le pied dans la présidence du Brésil et qu'il a donc accès à un certain nombre de documents internes, les affaires risquent de continuer à s'amonceler autour de l'ancien président et de son clan. On imagine que Lula n'aura pas goûté son incarcération de 600 jours pendant l'élection de 2022 et qu'il aimerait bien voir son ancien rival peut-être sous les barreaux lui aussi, ou en tout cas s'assurer que le clan Bolsonaro sera bien hors d'état de nuire pour les élections 2026, qui commencent donc déjà à s'inviter dans les affaires politiques locales, vous l'aurez compris, la guerre est lancée. Et on reste dans les bilans catastrophiques pour le Brésil, notamment sous la présidence Bolsonaro, avec ce chiffre qui vient d'être révélé, soit plus de 1000 catastrophes naturelles pour l'année 2023, et c'est un nouveau record pour le pays. Un record évidemment directement lié au changement climatique. Le Brésil a donc enregistré pour la première fois en 2023 plus de 1000 catastrophes naturelles avérées, ça fait plus de 3 par jour en moyenne. Les dégâts matériels, qui ont été évalués à plus de 5 milliards de reais, ça fait environ 925 millions d'euros, sont donc colossaux. Et les dégâts matériels touchent bien sûr principalement des populations déjà très paupérisées. Le chiffre exact, c'est 1161 au total l'an dernier, notamment des inondations, des glissements de terrain, et c'est du jamais vu depuis le début des relevés, qui datent de l'année 2011. Selon l'organisme public responsable de ce recensement, les événements sont liés à des précipitations extrêmes et ils ont fait au moins 132 morts, plus de 9000 blessés et plus de 74 000 personnes ont perdu leur logement dans la suite de ces catastrophes. Les changements climatiques ont eu un impact direct sur l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des désastres, expliquait ce mardi 23 janvier Francisco Aquino, qui est climatologue à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul. Le tout, selon lui, combiné avec la montée en puissance du phénomène météorologique El Niño, un synonyme du réchauffement mondial supplémentaire. Le chercheur ajoute « Nous avons vécu une année exceptionnelle en termes de records de température, avec des vagues de chaleur, des problèmes de sécheresse et des précipitations causant des inondations. » Ce spécialiste cite notamment les inondations dévastatrices causées par un cyclone qui a fait plus de 50 morts en septembre dans le sud du pays. Une soixantaine de personnes ont également péri à la suite de glissements de terrain sur le littoral de l'état de Sao Paulo au mois de février. D'autres régions du pays ont au contraire, elles, été frappées par une sécheresse historique, notamment l'Amazonie, où certains fleuves se sont retrouvés quasiment à sec, ce qui paralyse toute la vie sociale et économique de la région, puisque ce sont les uniques voies de circulation. Justement, on reste en Amazonie avec cette fois-ci peut-être une bonne nouvelle pour les peuples autochtones qui y vivent. Sur les téléphones, les smartphones, les langues seront bientôt accessibles en toutes lettres. Le problème peut paraître bête. Comment écrire un message sur son téléphone dans sa propre langue quand on appartient à une communauté indigène d'Amazonie brésilienne? Cette expérience a longtemps été un casse-tête, mais une application rend maintenant à ces langages autochtones leur caractère. caractères dans le sens de police typographique. Linkladu, c'est une application, c'est son nom. Elle permet donc aux populations autochtones de l'Amazonie brésilienne de rédiger des messages, texto, WhatsApp ou autre, sur leur téléphone et leurs ordinateurs dans leur langue. Elle a été lancée au mois d'août 2022. Linkladu vient du lin, qui évoque les langues indigènes, et clado, qui vient du mot portugais teclado, qui signifie clavier. Car oui, le but, c'est bien donc de mettre à disposition à ces populations indigènes un clavier digital adapté. Ces populations vivent souvent dans des régions reculées de l'immense région amazonienne, et quand elles bénéficient d'une connexion, ou dans des centres urbains, écrire des messages est quasiment impossible jusqu'à maintenant. Déjà, dans ces communautés, tout le monde ne maîtrise pas le portugais, qui est la langue officielle du Brésil, et les téléphones qui sont vendus dans le pays ne proposent, pour taper des messages, que les caractères latins qui sont utilisés pour écrire le portugais. Les cultures indigènes du territoire, aujourd'hui connues sous le nom de Brésil, sont historiquement orales, mais elles ont pénétré dans le monde de l'écrit, quand les colons européens ont cherché à retranscrire leur langue, notamment pour les convertir au christianisme. Des ressources spécifiques ont donc dû être trouvées, en associant au caractère de l'alphabet latin tout un ensemble d'accents et de traits, les signes diacritiques, on dit en linguistique, des accents donc et des traits pour tenter de restituer ces langues, mais rien de tout cela n'était jusqu'à maintenant disponible sur les équipements électroniques. En tout cas, la conséquence de cette absence jusqu'à maintenant, c'est que faute de clavier adéquat, eh bien les indigènes justement communiquaient beaucoup via des messages audio sur leur téléphone. C'est Noemia Ishikawa, qui est coordinatrice de ce projet, qui l'explique. C'est une biologiste de 51 ans, qui elle aussi rencontrait des difficultés pour traduire ses travaux de recherche et pouvoir les partager au sein des communautés locales. « J'ai passé 14 ans à réclamer un clavier pour résoudre ce problème », dit-elle. Eh bien, ce sont deux étudiants natifs de la région, sans être même indigènes, qui ont exaucé ses vœux. Le premier s'appelle Juliano Portela, il avait alors seulement 17 ans, et son ami Samuel Benzekri, âgé de 18 ans. Ils ont entendu parler de ce problème, Samuel en a parlé à Juliano, et ce dernier possède de bonnes bases en codage, se lance alors dans la conception d'une application avec son ami. Il explique « On a mis 4 jours pour créer l'application, on n'envisageait pas qu'on ferait ça aussi vite ». Des tests ont été menés en mai 2022, et l'application gratuite est lancée en août de la même année. Aujourd'hui, l'application Linkladu fonctionne pour toutes les langues indigènes d'Amazonie, soit plus d'une quarantaine de langues, se félicite un des créateurs. Juliano Portela, qui étudie aujourd'hui aux États-Unis, tout comme son ami Samuel Benzekri. Leur invention a déjà été téléchargée plus de 3000 fois, et au-delà de la communication quotidienne, cette application permet aussi la traduction de livres et d'autres textes du portugais vers des langues indigènes. Cela permet ainsi par exemple à des femmes de ces communautés de générer un revenu en mettant à profit leurs connaissances des langues locales. Un projet d'ailleurs baptisé Linkladas a été mis en place pour rassembler ces traductrices. Enfin, l'application participe également à la sauvegarde de certaines langues indigènes. Cet activiste de 35 ans, Vanda Witoto, tente ainsi par exemple de sauver la langue bouré, qui est la langue parlée par son peuple, les Witoto. Ce clavier a offert l'opportunité de ne pas utiliser les autres caractères qui ne sont pas ceux de notre langue, explique-t-elle. Au-delà de l'Amazonie, la sauvegarde des idiomes est un défi mondial. La moitié des langues sont vouées à disparaître d'ici 2100. Et la moitié d'entre elles sont des langues indigènes, si l'on en croit un rapport publié par l'ONU en 2028. Les nouvelles du Brésil, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et on pense fort à vous. Até logo! Des nouvelles du Brésil. Notícias do Brasil. Les nouvelles du Brésil, ce sont des chroniques de la vie quotidienne ou politique recueillies et enregistrées depuis Olinda, dans l'état du Pernambouc, juste à côté de la capitale Recife.